Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mardi sous la neige, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien parce que j'apprécie énormément ce moment où on dirait que la ville est plus calme, je dirais. Puis bon, ça change un petit peu le climat qui, on le sait, est extrêmement tendu en ce moment. J'espère que ça vous fait tout autant de bien à vous qu'à moi, Marianne Paquette au micro pour cette émission de C'est bon pour la santé. Tout à l'heure, un petit peu d'histoire avec notre chroniqueuse mensuelle Christiane Campagna pour cette chronique sur les grands noms de la médecine et de la science. Elle nous fait aujourd'hui un portrait de Michel Sarrazin, un scientifique arrivé ici en Nouvelle-France en 1685 à titre de chirurgien de la marine. Il a été par la suite, bon, médecin, oui, mais naturaliste, botaniste aussi, ce qui fait de lui, hein, si on fait le calcul, un des premier médecin ici en Nouvelle-France. Il a su influencer bien des gens. Il a su aussi également laisser sa trace. Et Christiane sera là tout à l'heure pour nous en parler davantage. Je vous parle également d'un livre sorti plus tôt cet été aux éditions du CHU Sainte-Justine. Enfin, je dors et mes parents aussi, peut-être. Peut-être que ça vous fait sourire. Un livre d'Evelyne Martello où on y apprend, entre autres, que près d'une consultation sur cinq avec un médecin pédiatre se fait avec un parent dont l'enfant présente un problème de sommeil. Ça peut sembler banal pour certains qui n'ont peut-être pas d'enfants, et beaucoup pour d'autres, et j'en suis parce que même si j'ai pas d'enfants, pour moi, mon sommeil est très précieux. Je suis une grande dormeuse. Et ce que l'on sait, ou du moins on s'en doute, c'est que des problèmes de sommeil d'un enfant, bon, d'une part, ça occasionne beaucoup de problèmes de santé chez celui-ci, mais ça ébranle toute une famille. Et on en parle davantage à l'instant avec Evelyne Martello, infirmière clinicienne à la clinique du sommeil de l'hôpital Rivière-des-Prairies et également auteur. Evelyne Martello, bonjour.
Bonjour, Madame Paquette.
Deuxième édition, donc, de ce livre « Enfin, je dors » et « Mes parents aussi ». La première édition a été publiée en 2007, toujours aux éditions du CHU Sainte-Justine, et ça s'est vendu à 25 000 exemplaires. Je trouve que c'est assez révélateur. D'une part, bon, les parents ont besoin d'être aidés quand leurs enfants présentent un trouble du sommeil, et il y a un besoin encore parce que vous venez de sortir une deuxième édition. Comment ça a été revisité, ce deuxième livre-là?
En fait, la deuxième édition, c'est par l'expérience, donc 8 ans de plus depuis la sortie du premier, qui m'a amené vers tous les âges confondus, je dirais jusqu'à 18 ans. Donc, ça m'a permis d'ajouter des choses avec différentes techniques aussi un peu plus peaufinées avec la demande du jour, qu'on peut dire, parce que les parents sont exigeants, ils veulent dormir, ils veulent des moyens efficaces. Et puis donc, c'est ce que j'ai pu révisiter. Aussi un peu avec les troubles associés avec la maladie mentale, l'autisme, le TDAH, des choses comme ça.
Oui, on parle de 65 pages en plus.
Oui.
Donc, encore plus de contenu. Vous le dites bien, Evelyne Martello, les parents sont exigeants. Ils ont besoin de dormir, évidemment, parce que ça a plein d'impact après ça pour l'absentéisme au travail, la qualité de vie, la santé mentale. C'est quoi les impacts? Bon, OK, d'une part sur les parents, mais sur les enfants au départ.
Bien, un enfant qui ne dort pas, bien, c'est un enfant qui est agité, qui n'est pas de bonne humeur. Hein? On sait que nous aussi, quand on est fatigué, on n'est pas de bonne humeur, les apprentissages se font moins bien. Est-ce que l'enfant va faire plus de crises? Oui. Il est contrarié plus facilement, plus malade, vous l'avez dit tantôt en début d'émission. Tout ça, c'est affecté parce que l'enfant manque de sommeil, quoi.
Il y a aussi, j'imagine, les performances scolaires à l'école.
Ben oui, la concentration. Quand on dort, on consolide les apprentissages qu'on a fait dans la journée. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, puis aussi, ben, on grandit, hein, il y a des sécrétions d'hormones de croissance. croissance, entre autres, qui se passe pendant qu'on dort. Donc, tout ça fait que nos cellules ont besoin de repos pour mieux se régénérer et tout ça a des effets sur notre comportement le jour.
Est-ce que le sommeil chez le jeune enfant peut même avoir un impact sur le développement de son cerveau?
Oui, bien sûr. Si un enfant ne dormait jamais, il ne pourrait pas se développer aussi bien que quand il dort bien. Mm-hmm. Et on sait surtout que tout ce qui est apprentissage, mémoire, tout ça, ça a vraiment des effets. Donc
fonctionnement cognitif et émotionnel de l'enfant. Chez le parent aussi, il y a des impacts. Évelyne Martello, vous avez rencontré beaucoup de parents dans le cadre de votre pratique. Qu'est-ce qu'ils vous disent au bout de plusieurs nuits à ne pas dormir?
Bien, ça, c'est pas juste plusieurs nuits, hein? C'est plusieurs mois et
ouais.
même plusieurs années. Et puis, c'est des parents qui sont complètement épuisés.
Ouais.
Je pense qu'ils n'ont plus de jugement non plus. Ils sont plus capables de faire la part des choses. Bon, il me semble que j'aurais des choses à faire, je ne sais pas comment m'y prendre. Ils sont épuisés. Il y en a qui sont obligés de laisser leur emploi. Ça va jusque-là dans les clientèles plus problématiques où ils doivent répondre aux besoins des enfants la nuit, des réveils, donc ils ne peuvent pas fonctionner le jour.
Ouais.
Donc ça devient vraiment difficile.
Ouais, donc des parents en souffrance.
Oui.
Aujourd'hui, on va s'intéresser ensemble, on va tenter du moins avec le temps que l'on a à comment on peut favoriser un meilleur sommeil chez l'enfant. Et d'une part, il faut commencer par identifier c'est quoi qui peut entraver le sommeil de notre enfant.
En fait, les enfants, c'est des bons dormeurs. Si on leur donne des bonnes consignes, si on veut, ils vont être des bons dormeurs. Par contre, si on les stimule trop, puis ça dépend d'un enfant à l'autre, les stimulations très fortes le soir, par exemple les écrans, hein, on en parle beaucoup dans les médias, les écrans bleus, les jeux vidéo, tout ça va vraiment avoir un effet sur la stimulation de l'enfant et empêcher son sommeil, surtout en soirée.
Mm-hmm.
Tout ce qui est les aliments stimulants, les boissons énergisantes, le sucre, les choses trop lourdes aussi à digérer, ça va affecter le sommeil. Tout l'aspect santé physique aussi, tout ce qui est quand tu as le rhume, tu as le nez bouché, si tu ronfles, hein, si tu fais des allergies, bien, tout ça peut affecter ton sommeil. Puis souvent, les enfants qui sont agités le jour, qui sont turbulents, qui ont tendance à être un petit peu hyperactifs, comme on pourrait dire, souvent sont agités la nuit aussi.
Mm-hmm.
Donc ça aussi, ça a un effet de petit réveil tout le temps la nuit qui fait que cet enfant-là ne se repose pas aussi bien.
Ouais. Donc, c'est pas un mythe, ça, donner du sucre à un enfant en soirée, ça va déstabiliser son sommeil.
Certains enfants, ça fait rien. Puis ces enfants-là, bon, on n'en parle pas, hein, parce qu'ils ne consultent pas. Mais il y a des enfants qui sont très sensibles à ça. Et on sait que toutes les boissons, entre autres, qui ont de la caféine dedans, les liqueurs, les choses comme ça, vont vraiment avoir un effet sur l'endormissement le soir.
Oui. Et le chocolat aussi, j'imagine.
Ça dépend. Le chocolat noir peut ne pas nuire, mais là, on ne va pas rentrer dans tous les différentes interférence avec le sommeil, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent nuire, en effet.
Je m'intéresse aussi, Évelyne, à savoir un enfant qui présente un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, il a un médicament, il prend des médicaments. Comment on dose ça? Parce que, justement, ces médicaments-là vont l'aider à fonctionner dans le jour, à l'école, dans ses activités, mais le soir, ça peut aussi l'empêcher de dormir.
En fait, ce qui arrive, puis ce qu'on voit, nous, ici, à la clinique, c'est ces enfants-là sont bien contrôlés au niveau de leur humeur, leur concentration dans la journée, avec souvent le médicament qu'ils reçoivent le matin. Par contre, rendu au soir, après 10-12 heures d'effet, il n'y en a plus, en fait. L'effet est disparu. Et c'est ça qui fait que là, l'enfant est obligé de faire l'effort lui-même, de se concentrer, de se contenir. Et c'est là que ça entrave l'endormissement. En fait, cet enfant-là est plus capable de s'endormir paisiblement parce qu'il devient trop agité. On dit que c'est comme un rebond.
Mm-hmm.
Alors, c'est ça qui vient nuire un peu à l'endormissement. D'ailleurs, il y avait un article que j'ai lu là, récemment sur ça, sur les études. Il disait justement que ces enfants n'ont plus la capacité de s'endormir facilement parce qu'ils sont trop agités.
Ouais. Bon, maintenant, comment on peut favoriser une meilleure hygiène de sommeil chez notre enfant? On entend souvent parler de l'importance de la routine du dodo.
Oui. En fait, tous les problèmes de sommeil dans n'importe quelle population, c'est avec la routine, la base, qu'on va commencer à intervenir. Donc, une routine, c'est un 30 à 60 minutes avant l'heure supposée de dodo,
mm-hmm.
et avec des étapes fixes, toujours répétitives, stables, qui vont faire que cet enfant-là va comprendre et il va préparer son corps à pouvoir aller dormir.
Oui. Et on se rend compte, hein, les enfants, souvent, en tout cas, du moins ceux qui vivent avec une routine du dodo, là, ils le savent. Là, oui. C'est collation, on brosse les dents, histoire, chanson, bisous, câlin. Puis ils sont contents même, ils appréhendent ça, mais avec bonheur.
Bien sûr, puis très jeune, hein, mais le petit bébé, il va apprendre ça très rapidement aussi. Ces gestes répétitifs, et comme vous dites, souvent, ils le demandent et ils le savent. Ils vont aller prendre leur doudou, ils savent qu'après le bain, ils se frottent les yeux. D'ailleurs, c'est ça qui fait que de mettre un bain souvent avant d'aller au lit, ça va aider l'enfant à écouter ses signes de sommeil, baisser sa température interne qui va favoriser son endormissement. Donc ça, c'est vraiment important à inculquer très jeune.
Est-ce qu'il y a des petits trucs que l'on peut se donner? On parle souvent de température de la chambre ou encore de certains sons qui pourraient aider l'enfant à s'endormir?
Chez les enfants qui ont des difficultés à s'endormir, c'est certain que plus on va mettre une ambiance calme, le moins de lumière possible, le moins de bruit possible, ça va aider. On dit pas de lumière qui va la déranger, par exemple, à 5 heures du matin quand c'est le printemps, puis que ça pourrait passer à travers les rideaux. On va faire attention à tout ça. Mais les enfants qui sont très agités, qui ont des difficultés la nuit, qui se réveillent souvent, on va parfois avoir leur offrir un bruit de fond, par exemple. Soit une musique en continu ou un ventilateur qui va faire qu'ils vont être moins anxieux au bruit environnant, puis ils vont dormir plus paisiblement.
Vous dites aussi qu'il faudrait éviter de mettre l'enfant en punition dans sa chambre. Pourquoi ça?
Bien, parce que si nous, on voudrait que tous les enfants, quand ils voient leur chambre, le mécanisme endormissement s'installe. Alors, s'il rentre dans sa chambre et il est puni, ça va devenir un petit peu en contradiction. Puis ça peut arriver que le soir, donc, il associe qu'il rentre dans sa chambre, puis il va sentir ça comme une punition. Alors, on veut éviter ça, évidemment.
Aussi, dans votre livre, et ça, je trouvais ça plutôt intéressant, « Enfin, je dors » et mes parents aussi, vous parlez d'approches complémentaires. Par exemple, peut-être des suppléments issus de la naturopathie, comme différentes plantes, différentes huiles essentielles. C'est rare qu'un spécialiste de la santé va mettre ça de l'avant.
En fait, les parents, c'est sûr que quand ils m'appellent, ils me contactent, ils sont découragés. Ils ont besoin d'une aide rapide. Et je me dis qu'il y a des choses qui peuvent les aider à faire le pas d'intervention, comme qu'on n'a pas encore parlé, mais des techniques, dans le fond, pour aider les enfants à s'endormir seuls. Et souvent, ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Puis ça fait que ça sert, dans le fond, les plantes, des produits qui sont vendus en vente libre dans les pharmacies, quand même, reconnu, mais ça, c'est facile pour le parent d'aller s'en procurer sans avoir son médecin et de faire des grandes démarches. Des fois, c'est difficile d'avoir le rendez-vous avec son médecin, mais s'il consulte un autre professionnel, dont une infirmière, quelqu'un au CLSC ou une travailleuse sociale, des gens qui ont les aptitudes à les aider, mais ils peuvent se donner un petit coup de pouce avec les choses qui existent déjà en vente.
Mais on va en parler justement, Evelyne Martello, de ces techniques-là, celle du 5-10-15 ou de la technique de l'attente progressive également, qui est peut-être controversée chez certains, mais qui fonctionne très, très bien chez d'autres. C'est quoi cette méthode-là?
Bien, ça, c'est connu, puis c'est, oui, comme vous dites, très controversé. C'est de déposer l'enfant avec, la routine telle qu'on l'a décrite plus tôt, et de terminer à déposer l'enfant très jeune, même le bébé, éveillé dans son lit, pour qu'il ne dépende pas de son parent pour pouvoir s'endormir et donc ne pas le réclamer la nuit pour le même geste. Mais souvent, on est obligé de changer un peu les habitudes. Puis un bébé, par exemple, mais ça comprend pas, même si on lui dit des mots, il va pas comprendre que là, on va revenir dans 5 minutes. Prends ton toutou, prends ta doudou, faut fermer les yeux. Alors, à force de revenir en 5 minutes, au bout de 10 minutes, au bout de 15 minutes, on revient toujours redire à son enfant, prends ton petit doudou, on fait dodo, c'est la nuit, des mots clés qui vont faire qu'à un moment donné, il va finir par s'endormir. Mais c'est sûr qu'il passe par les pleurs parce qu'il ne peut pas faire autrement pour s'exprimer, surtout le bébé.
Oui. Et c'est une méthode qui fonctionne chez beaucoup de parents assez bien, toutefois.
Oui, quand les parents l'appliquent vraiment, comme je l'explique dans le livre, d'ailleurs, il y a des exemples vraiment concrets. Et souvent, de suivre ce modèle-là, ça l'aide, ça donne l'outil aux parents de mettre en place et de bien suivre, si on veut, comme une recette. Et ça fonctionne en 3-4 jours. C'est vraiment efficace.
Quand...
Ça peut être dur pour le cœur de la maman.
Ouais. Ouais. Et comme on le disait tantôt, lorsque des parents vivent une souffrance parce qu'ils sont sans sommeil depuis plusieurs mois, une technique qui pourrait fonctionner en 3-4 jours, ben c'est sûr que c'est assez bienvenu. Il y a aussi une autre technique, et là, j'ai pas le nom sous les yeux, Evelyne, mais une technique qui sert à rester auprès de l'enfant. Il y a le mot chaise là, oui. Dans le nom de cette technique-là.
C'est le retrait de la chaise.
Voilà.
Ouais, c'est ça. La routine de la chaise. Alors, c'est ça. On va utiliser, parce que le 5, 10, 15, on peut pas faire ça chez des enfants trop vieux parce qu'ils vont pleurer beaucoup trop.
Mm-hmm.
Fait qu'habituellement, on vise ces techniques-là pour les enfants jusqu'à 15-18 mois. Mais ensuite, quand l'enfant est un peu plus vieux et qu'on peut lui faire comprendre, la maman va rester, on peut s'asseoir. Même chose, on fait la routine, on le dépose dans son lit, après l'histoire, des câlins, et on peut rester sur une chaise tout près de lui en le caressant au début. Et tranquillement, un petit peu chaque soir, on s'éloigne.
Mm-hmm.
Et c'est tranquillement, l'enfant va finir par s'habituer à ce que le parent soit pas toujours avec lui pour l'endormir.
Ouais. Le temps file à vive allure. J'avais envie de vous parler des enfants. Je pense que ça arrive plus vers 3 ans, des enfants qui vont vivre des cauchemars.
Oui.
Ça, comment on peut gérer tout ça en tant que parent?
Toujours dans la détente, le soir, la routine qui rassure. L'enfant va aimer ça parce que ça il n'y a pas de surprise. Donc, avec le cauchemar, souvent, on va essayer de parler, si par exemple, il parle toujours qu'il a peur d'un chien, ben on pourrait raconter une histoire d'un chien qui est super gentil, qui est ami des enfants,
mm-hmm.
Dédramatiser la peur, parce que ça commence à comprendre, mais il y a l'âge imaginaire où ça vient un petit peu perturber la réalité. Donc, souvent, en clarifiant les choses, en les faisant rire, souvent aussi d'une situation,
oui.
Ça va les aider à relaxer. Mais la détente avant de dormir, ça peut être vraiment aidant.
Oui. Et c'est pour ça, tantôt, vous parliez du doudou.
Oui.
Ces objets-là, que ce soit le toutou, la oui. doudou, ça sert vraiment à sécuriser, à calmer l'enfant. On peut mettre ça de l'avant, ce genre d'outil-là.
Ah. Tout jeune, chez le bébé, souvent, moi, je vais dire aux parents, prenez votre chandail que vous allaitez avec, puis faites un nœud dedans et déposez-le dans le lit du bébé.
Mmh.
Comme ça, il y a l'odeur, cette odeur qu'il connaît bien, qui est rassurante.
Ouais, donc de pas hésiter à aller se chercher des outils comme ça, puis à demander de l'aide aussi quand la détresse devient trop grande.
Bien sûr, puis on n'attend pas que ce soit trop important parce que c'est sûr que les parents manquent d'énergie.
Ouais.
Ils se sentent pas le courage d'appliquer ces méthodes.
Oui. Et aussi, c'est que l'enfant vit différents cycles, je pense, notamment lorsqu'on change la bassinette pour le premier petit lit. Ça aussi, ça peut ébranler l'enfant.
Bien sûr.
Donc, à ce moment-là, on va user de la doudou, du toutou, de d'autres choses
oui.
pour la sécuriser.
Bien sûr. Puis des petites récompenses à l'occasion, un petit collant sur le calendrier, si tu restes dans ton lit, des petites choses comme ça qui a l'impression aussi qu'ils participent.
Mm-hmm.
Quand ils comprennent, ils aiment ça quand même. Faire plaisir aux parents, ça fait partie de l'enfant. Hein?
Oui.
Puis je pense que si on fait des échanges, on peut arriver à nos buts.
Oui. Enfin, je dors et mes parents aussi. Donc, vraiment, un outil à voir sur la table de chevet, pas loin. Et ben c'est assez, on peut le voir là, écoulé à 25 000 exemplaires. Je pense que c'est révélateur. Les familles ont besoin de sommeil. Et il y a tout dans ce livre-là pour vous offrir les outils, les références. Evelyne Martello, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes infirmière du côté de la clinique du sommeil de l'hôpital Rivière-des-Prairies. Ça a été un plaisir de vous parler.
Bien, merci beaucoup.
Au revoir.
Bon après-midi. Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzebois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Bonjour Christiane.
Bonjour.
Un plaisir de t'avoir avec moi ici autour de cette table pour parler histoire des grands noms de la médecine. Aujourd'hui, Michel Sarrazin, qui a mis les pieds ici en 1685.
Oui.
C'est bien ça, la date. Ce qui est particulier, je trouve, c'est que, je lisais un petit peu sur lui, là, avant notre discussion, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de portrait, on ne sait pas à quoi il ressemble.
Non, il en circule un, puis ce serait probablement un autre Michel Sarrazin français. On ne sait pas à quoi il ressemblait.
Mais on a quand même d'autres informations sur lui.
C'est un grand médecin, un des premiers grands médecins scientifiques, en fait, de manière générale, de notre histoire. Et avant de parler de lui précisément, je voudrais parler un petit peu de la médecine à l'époque de la Nouvelle-France. Parce qu'en fait, il représente ça et en même temps, il représente des exceptions à ça, Michel Sarrazin.
OK.
Parce que, bon, les médecins ne sont pas nombreux en Nouvelle-France. On trouve surtout des chirurgiens, parfois des chirurgiens barbiers et des apothicaires. Et de nos jours, la chirurgie, c'est une spécialité de la médecine. Alors qu'à l'époque, hiérarchiquement, c'est le contraire qui se passe. Alors, le médecin se situe au sommet de la hiérarchie professionnelle. Il est considéré comme un homme de science. Il se distingue du chirurgien de l'apothicaire par des études universitaires, ce qu'eux n'ont pas. Et il se concentre sur des aspects assez théoriques et très précis qui demandent des connaissances. Il s'occupe du diagnostic, donc déterminer quelle est la maladie. Il s'occupe du pronostic, donc c'est quoi les chances de guérir la personne, et de la prescription. Donc, le choix du traitement.
Mais il ne se salit pas trop les mains.
Il ne se salit vraiment pas beaucoup les mains, même que y a certaines de ces choses-là, le fait que les opérations seront données aux chirurgiens, même à certaines époques, aux chirurgiens barbiers, ça remonte au Moyen Âge où les médecins étaient souvent des prêtres et l'Église leur avait interdit d'opérer parce qu'il ne fallait pas qu'ils touchent le sang.
OK.
Alors, les chirurgiens, eux, ils apprennent auprès d'un maître. C'est le principe de l'apprentissage, du compagnonnage. Ils s'occupent du côté pratique du travail médical. C'est eux qui amputent, incisent les abcès, extraient les dents, pansent les plaies, effectuent des saignées. Parce qu'on avait vu avec Hippocrate la théorie des humeurs lors de ma première chronique. C'est encore à vigueur à l'époque et on pratique encore beaucoup la saignée pour rééquilibrer les humeurs dans le corps du malade. Et donc, c'est comme le médecin est un noble et le chirurgien... Plus
et
de
comme
la
l'ouvrier, presque, là.
Dépendamment du niveau, c'est quand même pas comme un fermier, c'est, disons, du niveau de la bourgeoisie,
mais à
si
l'époque, Christiane, c'était pas souvent... C'est les barbiers, là, souvent.
Oui, souvent, ce sera les barbiers. Jusqu'en 1743, leur profession et celle des barbiers sont réunies sous une même corporation professionnelle. C'est très important, les corporations, à l'époque, ça régit comment vous apprenez, où vous avez le droit de pratiquer, etc. Puis, il y avait aussi l'apothicaire, qui est un peu l'ancêtre du pharmacien. Mm-hmm. Son rôle officiel, c'est la préparation des médicaments, leur conservation, leur distribution. Mais ici, en l'absence de médecins, souvent, c'était des sortes d'omnipraticiens qui pratiquaient sans formation adéquate, par contre.
Michel Sarrazin, lui, arrive par la suite. Il est envoyé ici par le roi?
En fait, au départ, il vient une première fois avec l'armée. Il est chirurgien-major dans l'armée canadienne.
Okay.
Donc, ça a 26 ans qu'il arrive la première fois. En 1692, il est gravement malade. Il sera hospitalisé pendant un mois à Montréal, entre la vie et la mort, et ça lui amène une remise en question existentielle, si vous voulez. Il retourne en France et au départ, il songe à se faire prêtre. Et puis finalement, il décide d'aller faire l'étude de la médecine, de devenir médecin. Pendant ses études, il fréquente le Jardin des plantes, qui est le futur musée national d'histoire naturelle. Il s'initie à la botanique, ce qu'il va continuer à faire tout le reste de sa vie, ce sera une de ses passions.
Il a collaboré avec les Iroquois aussi. Il travaillait avec eux pour apprendre les plantes et tout ça.
Oui, bien, on dit qu'il n'était pas un si grand aventurier, mais il s'en faisait ramener. Il envoyait beaucoup d'exemples de plantes en Europe. Mm-hmm. Donc, pour faire connaître les plantes d'ici aux gens qui étudiaient ça en France. On le convainc de revenir ici parce qu'on manque de médecins, justement. On le nomme médecin du roi et il s'installe à l'Hôtel-Dieu de Québec. Et il sera la cause de la très grande réputation de cet hôpital-là. Mais lui, en devenant médecin, il ne cesse pas d'être chirurgien. C'est peut-être dû au fait que ça fonctionnait un peu différemment. Ici, c'était peut-être moins rigide aussi, les corporations. Il jouit d'une très grande notoriété, entre autres, suite au succès de l'opération d'un cancer sur une religieuse, Marie Barbier, la supérieure des religieuses de la Congrégation Notre-Dame. Là, il faut se balancer à l'époque, on parle d'une ablation pratiquée sans aucune anesthésie et sans asepsie, c'est-à-dire aucune mesure de stérilisation. Ouais. Ça viendra beaucoup plus tard. Mais il réussit à la guérir. Elle vivra 39 ans suite à cette opération-là. Alors, ça devient l'Hôtel-Dieu, de cette façon-là, le premier hôpital au Canada à utiliser la chirurgie contre le cancer.
Grâce à Michel Sarrazin.
Grâce à... Oui, voilà. Et justement, en orientant sa pratique comme ça vers la chirurgie, il considère pas que, peut-être parce qu'il avait déjà pratiqué, que la chirurgie n'est qu'un vil métier. Là. Il l'intègre à sa pratique de médecin. Il meurt en 1734 à l'âge de 75 ans, alors qu'il pratiquait toujours. Il meurt, il contracte une maladie en soignant des gens. Il y a des bateaux qui venaient d'arriver à Québec et on pense que c'est probablement la petite vérole qui lui causera la fièvre qui va l'emporter. Mm-hmm. Et tout en étant médecin, il a été correspondant de l'Académie des sciences. Il va pratiquer, il va disséquer des animaux d'Amérique pour mieux les connaître, pour mieux les comprendre. Donc, il est devenu médecin, mais il a continué à étudier le couteau.
Oui, puis il a beaucoup s'intéressé à la nature pour peut-être mieux comprendre le corps humain. Je trouvais ça plutôt intéressant.
Oui, c'est ça. Donc, il va vraiment contribuer à... D'ailleurs, dans l'héritage de Michel Sarrazin, il y a une plante et une famille de plantes d'Amérique qui porte son nom.
Sarracenia, je le prononce comme
il faut. Oui, la Sarracenia, qui est une plante carnivore.
OK.
Indigène, qui a été nommée en son honneur. Et de même, le nom de la famille des Sarraceniacées, à laquelle appartient cette plante, évidemment, vient aussi de Michel Sarrazin.
Et en terminant, il a laissé ses traces, notamment à une maison, Michel Sarrazin.
Oui, du côté de Québec, il y a la maison Michel Sarrazin qui est spécialisée en soins palliatifs. Et il y a aussi un prix qui porte son nom. Le prix Michel Sarrazin, qui est remis annuellement à un scientifique québécois qui, par son dynamisme et sa productivité, dit-on, a contribué de façon importante à la recherche biomédicale. Alors, c'est vraiment, c'est plus qu'un médecin, c'était un scientifique. Oui. Les scientifiques étaient très polyvalents à l'époque. Et en ce sens-là, il est vraiment un bel exemple de son époque, mais c'était aussi quelqu'un à l'avant-garde, au fond, en mariant la médecine et la chirurgie qui, jusque-là, étaient souvent séparées.
Oui. Et je trouve ça drôle parce qu'on le désignait médecin du roi, mais le roi n'était pas ici, là.
Non, c'est un titre. C'est vraiment... quand on est médecin du roi, généralement, ça veut dire qu'on étudie un petit peu plus longtemps qu'un médecin ordinaire, qu'on détient un doctorat plutôt qu'une simple licence. Mais ça, c'est la théorie. Je ne l'ai pas lu dans la biographie de Michel Sarrazin. Souvent ici, tout ce qui était le corporatisme, les règles très, très, très strictes des métiers en France étaient appliquées de manière un peu plus libre, disons, en Nouvelle-France, tout simplement par manque d'effectifs.
Merci beaucoup, Christiane Campagnat, pour ces lumières sur Michel Sarrazin, toujours aussi captivant. Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, c'est Marianne Paquette au micro. Demain, on parle de comment on peut cuisiner sans déchets, sans gaspillage. Et aussi, on parle avec le CHU Sainte-Justine. Soyez-y, rendez-vous 14 h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye tout le monde!